Le 8 juillet 2026, il y a des millions de dollars de marchandises qui pourraient rester bloquées à la frontière américaine.
Et pas à cause d'une grève des douaniers, on s'entend?
Non, exact. Pas de grève, pas d'embargo commercial inattendu. Littéralement à cause d'un simple numéro de téléphone qui manquerait dans une base de données.
C'est la dure réalité qui frappe à nos portes. La conformité douanière, ben, elle vient de changer de dimension et le niveau de précision exigé va prendre énormément d'entreprises par surprise.
Oui, parce que traditionnellement, la conformité à la frontière, c'était super réactif.
Très réactif, oui.
C'est l'image classique, c'est du chauffeur de camion qui arrive au poste de douane. Si l'inspecteur a un doute, il demande d'avoir un certificat.
Puis le chauffeur ou le courtier sort une feuille de papier d'une pochette.
Exactement. Le document existe, il dort dans un classeur, puis on le présente uniquement sur demande. Mais cette époque-là, elle tire à sa fin.
Définitivement.
Fait que notre mission pour cette exploration d'aujourd'hui, c'est de décortiquer ce tremblement de terre logistique. Le mandat de déclaration électronique, le fameux e-filing de la CPSC américaine.
Le mandat qui entre en vigueur en juillet 2026.
Voilà. Et pour bien comprendre l'ampleur de la chose, toute notre analyse est basée sur un document assez massif. Le guide qui s'appelle « The Definitive Guide to the U.S. CPSC e-filing mandate for cross-border shippers ».
C'est un guide super exhaustif. Ça détaille méticuleusement comment les règles du jeu viennent d'être réécrites pour, ben, quiconque expédie des marchandises vers les États-Unis.
Ce n'est plus une simple corvée administrative de bureau, genre. C'est vraiment devenu la condition absolue pour traverser la frontière.
Exact. C'est le nouveau ticket d'entrée.
L'objectif aujourd'hui, c'est d'équiper notre auditoire pour comprendre cette transition radicale vers une gouvernance des données en temps réel. Puis tout ça sans se noyer dans le jargon douanier, parce qu'il y en a beaucoup.
Il y en a énormément, oui. Mais pour saisir l'urgence de la situation, je pense qu'il faut d'abord regarder comment la philosophie même du contrôle frontière est en train de muter.
Ouais, on passe d'un système où, mettons, le fardeau de la preuve arrivait après une interception à un modèle qui est farouchement proactif.
Et la mécanique derrière ce changement-là, elle est redoutable. Désormais, les données doivent être envoyées électroniquement et s'intégrer directement dans ce qu'on appelle le système ACE.
Le système ACE, c'est pour Automated Commercial Environment, c'est ça?
C'est ça. C'est le cerveau numérique des douanes américaines. Et l'intégration de ces données, ben, elle doit se faire au moment précis où la déclaration en douane est remplie.
Donc, bien avant que le camion n'arrive physiquement au port d'entrée.
Bien avant, oui. La CPSC déploie des algorithmes pour évaluer les risques en temps réel. Leur but, c'est de savoir si un produit représente un danger pour les consommateurs, avant même qu'il ne touche le sol américain.
D'accord. Décortiquons-tu. Moi, j'aime bien les analogies. C'est un peu comme l'évolution de la sécurité dans un club très sélect.
Ah, j'aime bien cette image.
Dans le temps, on arrivait devant le portier, puis s'il y avait un doute sur notre âge, ben on sortait notre carte d'identité de notre portefeuille.
On prouvait notre conformité sur demande.
Exact. Mais le nouveau mandat, c'est comme si on devait maintenant passer dans un scanner biométrique ultra sophistiqué. Un scanner qui valide notre identité, nos antécédents, l'authenticité de nos vêtements, avant même qu'on ait pu sortir de notre voiture dans le stationnement.
C'est une excellente comparaison, surtout sur l'aspect anticipatoire de la chose. Si on relie ça à la situation dans son ensemble, le dédouanement n'est plus un processus d'examen humain de documents physiques.
Non, c'est clair.
C'est une porte numérique qui reste verrouillée par défaut. Et c'est ici qu'intervient une mécanique assez vicieuse liée au code HTS, le système harmonisé des tarifs douaniers.
Les codes qui servent à classifier la marchandise, dans le fond?
Voilà. Le système ACS scanne la déclaration pour voir si les codes HTS correspondent à une liste de produits ciblés par la CPSC.
OK.
Si ça correspond et que les données manquent, ben, l'algorithme bloque l'entrée automatiquement.
Mais attends un peu. Si le système cherche spécifiquement certains codes HTS, ça implique qu'il ne cite pas tout. Ça donne un peu l'impression que si le code douanier n'est pas sur leur liste rouge, on passe sous le radar puis on est correct.
Et c'est exactement le piège dans lequel beaucoup d'entreprises vont tomber. Le guide source est super catégorique là-dessus.
Ah oui?
La liste des codes HTS de la CPSC, elle n'est absolument pas exhaustive. Elle déclenche le blocage automatisé, oui, c'est vrai. Mais d'un point de vue légal, l'importateur demeure entièrement responsable de la conformité de son produit.
Même si l'ordinateur le bloque pas à la frontière.
Même si l'ordinateur ne dit rien. Si un produit est soumis à une réglementation de sécurité américaine, l'obligation légale de fournir ses données électroniques demeure.
Wow. Fait que jouer à la roulette russe en espérant que le code HTS déclenche pas d'alarme, c'est chercher le trouble.
C'est s'exposer à de très graves répercussions lors d'un audit ultérieur, oui.
C'est clair que la frontière devient un filtre numérique impitoyable. Ce qui m'amène à une question assez fondamentale. Qui a vraiment besoin de ce nouveau passeport numérique?
C'est la bonne question à se poser.
Parce que si on cible pas uniquement les codes HTS spécifiques, quels sont les produits qui requièrent ce niveau de contrôle chirurgical? Mettons du bois d'œuvre, brut ou de l'acier industriel, ça doit pas être concerné de la même manière qu'un jouet.
Non, en effet. La ligne directrice à retenir, c'est le produit de consommation fini.
D'accord.
On parle pas des matières premières ou des composants industriels, à moins qu'ils soient vendus directement aux consommateurs comme des produits autonomes.
OK, donc la cible, c'est vraiment la marchandise qui finit sur les tablettes des magasins ou qui est livrée directement devant la porte des gens.
Exactement. Et le document divise cette exigence en deux grandes branches de certification.
La première branche, ce sont les certificats CPC, c'est ça?
Oui, les Children's Product Certificates. Ça cible spécifiquement les enfants, donc on devine que c'est là que les règles sont les plus strictes.
J'imagine. On parle de quoi? Des jouets, des vêtements?
Ça englobe tout ce qui est conçu principalement pour les enfants de 12 ans et moins. Les jouets, les berceaux, les vêtements pour tout petit. Et le niveau de rigueur ici est maximal.
C'est-à-dire?
Bien, les tests de sécurité sont obligatoires. Mais la subtilité, c'est qu'ils ne peuvent pas être effectués par n'importe qui. Ils doivent être réalisés par un laboratoire tiers qui est formellement reconnu et accrédité par la CPSC elle-même.
Fait qu'aucune donnée de test à l'interne n'est acceptée pour les enfants.
Zéro. Ce qui contraste avec la deuxième branche, les GCC, les certificats généraux de conformité.
Ça, c'est pour le reste de nos objets du quotidien, mettons.
Exact. Des casques de vélo au matelas, en passant par les rallonges électriques ou l'électronique générale.
Puis c'est quoi la grosse différence avec les certificats pour enfants?
La distinction majeure, c'est la flexibilité du processus de test. Les règles de sécurité demeurent très strictes, on s'entend, mais pour prouver la conformité d'un GCC, le fabricant peut utiliser un laboratoire externe non affilié à la CPSC.
Ah, OK.
Ou il peut même s'appuyer sur un programme de test raisonnable géré directement à l'interne.
C'est quand même plus flexible. Mais je me fais l'avocat du diable de seconde. Si on se place du point de vue d'une PME, disons une petite entreprise qui fabrique des meubles ou des accessoires de sport.
Ouais.
C'est un labyrinthe épouvantable, ce truc-là. Savoir si on a besoin d'un CPC ou d'un GCC, identifier quel laboratoire est accrédité, comprendre quelles normes s'appliquent à un matelas comparativement à un casque de vélo.
C'est un casse-tête, c'est sûr.
Si cette PME-là n'a pas le budget pour engager une armée d'avocats spécialisés en commerce international, elle est techniquement bloquée, non? Il y a sûrement un mécanisme de prévu pour ne pas paralyser l'industrie au complet.
Heureusement, oui. Et le guide met justement en lumière une initiative super intéressante de la CPSC pour éviter cet effondrement administratif. Ils ont mis en ligne un outil qu'ils appellent un « regulatory robot ».
Un beau réglementaire. On s'entend que ça sonne un peu ironique pour une agence gouvernementale.
C'est vrai que le nom fait sourire, mais c'est un outil d'assistance interactif. Au lieu de laisser les entreprises fouiller dans des milliers de pages de textes de loi indigestes, le système pose des questions pratiques.
Mais concrètement, comment ça marche, là? C'est-tu juste un genre de formulaire PDF amélioré?
Non, c'est beaucoup plus dynamique que ça. L'algorithme croise les données sur les matériaux et l'utilisation prévue du produit. Mettons, l'entreprise indique qu'elle fabrique un vêtement, qu'il y a des cordons de serrage et que c'est destiné aux enfants de 8 ans.
OK.
En fonction de ces réponses-là, le robot génère un rapport sur mesure. Ça agit comme une vraie boussole pour la PME. Ça identifie précisément les normes fédérales applicables et les règles de test exigées pour cette combinaison spécifique-là.
C'est génial, ça. Ça permet de démystifier les obligations sans débourser des sommes folles en consultation.
Exactement. C'est un excellent point de départ.
Bon, mais une fois que ce fameux robot nous a confirmé qu'un produit est bel et bien réglementé, il faut créer son profil de données pour la douane. Et c'est là qu'on entre dans l'ADN de la conformité, non?
Oh que oui! C'est là que ça se corse.
Parce que l'exigence technique, ce message électronique qu'on doit envoyer, c'est pas juste une simple case à cocher. Oui, mon produit est sécuritaire.
Loin de là. L'obligation s'articule autour des messages PGA. Ça veut dire Partner Government Agency.
OK.
Ce sont des ensembles de données qui viennent se greffer à la déclaration douanière standard. Et pour chaque produit réglementé, la CPSC exige 7 éléments de données obligatoires.
7 éléments?
Oui. Peu importe que ce soit un jouet pour bébé ou un grand miroir, c'est 7 éléments.
C'est ici que ça devient vraiment intéressant puis qu'on réalise la lourdeur du processus. Ces 7 éléments, si on se fie au guide, c'est 1. L'identifiant unique du produit comme un SKU, la liste des règles de sécurité applicables, la date et le lieu précis de fabrication, la date et le lieu des tests.
Oui, continue.
Ensuite, on a les informations complètes sur le laboratoire, les coordonnées du gardien des dossiers, puis les informations sur la partie qui certifie.
C'est ça, le portrait complet.
Je veux fournir tout ça, c'est littéralement exiger un test d'ADN généalogique complet pour une simple rallonge électrique.
C'est une très bonne image.
Parce que le système des douanes ne regarde pas juste le produit physique. Il analyse ses parents, l'usine, le laboratoire, puis il vérifie leurs références en quelques millisecondes.
Ce qui est fascinant ici, c'est le niveau de tolérance zéro de la norme, la CZFCR Part 1110. L'algorithme ne fait pas de déduction logique.
C'est-à-dire?
Bien, si on prend le cinquième élément, les informations sur le laboratoire. Si vous omettez d'inclure le numéro de téléphone de ce laboratoire...
Juste le numéro de téléphone?
Juste ça. Le message PDA est jugé incomplet.
Attends, vraiment?
Juste pour un numéro de téléphone manquant, ça bloque.
Absolument. Le système AS croise ses numéros avec ses propres bases de données d'accréditation. Sans le numéro de téléphone, l'algorithme ne peut pas valider l'entité. Résultat, la transmission est rejetée automatiquement.
Et le camion reste coincé du côté canadien de la frontière.
Exactement. Ce niveau de précision absolue, ça transforme un petit oubli de bureau en un véritable désastre logistique. Et ça nous projette directement dans la réalité physique des entrepôts, là. Imagine une entreprise qui prépare un chargement LTL, Last Truckload.
Oui, les chargements partiels.
C'est ça. Un camion qui n'est pas rempli d'un seul produit uniforme. C'est des dizaines de palettes avec des produits de fournisseurs complètement différents.
C'est très fréquent.
S'il faut fournir 7 points de données parfaits pour chaque variation de produit dans ce camion hybride-là, mettons à 16 heures un vendredi après-midi...
Ouf!
On risque de paralyser complètement les opérations. Et face à cette montagne de données, le guide propose deux voies d'accès, la voie A et la voie B.
C'est ça. Mais en lisant les détails, on réalise vite que c'est pas vraiment un choix.
Oui. La voie A, de ce que je comprends, ça ressemble davantage à un piège.
La voie A, c'est la soumission complète par expédition. Dans ce scénario-là, le courtier en douane ou l'importateur saisit manuellement les 7 éléments de données obligatoires pour chaque produit.
À chaque passage frontalier.
À chaque passage.
Saisir des centaines de points de données manuellement à chaque fois, je veux dire, le risque de faire une faute de frappe sur un code escaillou ou un numéro de labo est énorme.
Le risque est omniprésent.
Sachant que la moindre erreur entraîne un blocage automatisé, la voie A semble être la recette parfaite pour multiplier les crises cardiaques chez les courtiers en douane.
Clairement. C'est un fardeau administratif immense, puis c'est insoutenable à long terme pour les opérations. La probabilité d'erreur augmente avec chaque produit ajouté. C'est pour ça que les guides insistent lourdement sur l'adoption de la voie B.
Et la voie B, c'est le fameux registre des produits, c'est ça?
Oui. C'est un changement d'approche complet. Le registre des produits de la CPSC.
Mais comment cette voie B contourne la paralysie de la saisie manuelle?
Par l'anticipation. Au lieu d'attendre à la dernière minute, les importateurs préchargent tranquillement les 7 éléments de données pour tout leur catalogue.
OK.
Ils mettent ça dans la base de données de la CPSC à l'avance et le système génère des identifiants uniques.
Fait qu'au moment d'expédier, qu'est-ce qui se passe?
Au moment d'expédier, au lieu de taper frénétiquement des centaines de détails, le courtier a besoin d'entrer seulement 3 champs dans le système. Douanier.
Juste 3?
Oui. L'identifiant du produit, l'identifiant du certificateur et l'identifiant du certificat. C'est tout.
Donc, le système AC des douanes reçoit ses 3 clés numériques, puis il s'occupe d'aller puiser le reste des informations directement dans la base de données de la CPSC?
Exactement. Le système fait le pont instantanément, ça élimine le fardeau de la saisie manuelle de dernière minute.
Et surtout, ça sécurise le passage en réduisant les risques d'erreurs de frappe.
C'est ça la vraie victoire de la voie B.
Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire pour l'industrie Ben? Bien, on conclut que la voie B, c'est pas juste une suggestion amicale de la CEPSC, c'est une véritable stratégie de survie opérationnelle.
Je suis tout à fait d'accord. L'utilisation intelligente de cette technologie, de cette centralisation des données, ça accélère le dédouanement. Ça prouve que la technologie peut sauver les marges bénéficiaires si elle est bien utilisée.
Et ces marges peuvent fondre à une vitesse fulgurante si on ignore ce virage ou si on attend 9 juillet 2026 pour s'en occuper.
L'inaction a un prix. Et il est très élevé.
Justement, que se passe-t-il pour ceux qui ignorent cette transition?
Le guide détaille les sanctions et c'est pas joli. Si les données manquent ou sont erronées, la CPSC a le pouvoir de retenir la marchandise pour des examens physiques.
Puis on parle pas de quelques heures de délai, là.
Non. Les rétentions prolongées peuvent durer jusqu'à 60 jours.
60 jours d'immobilisation?
Sérieux, pour n'importe quelle entreprise qui gère des flux tendus, c'est catastrophique.
C'est la faillite pour certains.
Surtout pour du fret LTL ou d'autres marchandises de clients différents pourraient être prises en otage dans la même remorque. Et j'imagine que les frais associés à ça tombent directement sur les épaules de l'importateur.
Totalement. L'importateur paye les frais de surestérie, donc les pénalités pour l'immobilisation de l'équipement, plus les coûts d'entreposage sous douane qui sont astronomiques.
Sans parler des pénalités légales. Oui, les amendes sévères, les saisies, voire les rappels obligatoires si on découvre une fausse déclaration.
Mais il y a un autre élément dans le guide qui me semble encore plus vicieux. C'est l'impact sur le score de risque de l'importateur.
Ah! Ça soulève une question super importante. Le score de risque, c'est la réputation de l'entreprise face aux douanes.
Payer une amende, ça ne règle pas le problème, dans le fond?
Non, parce que chaque rejet automatisé ou rétention fait augmenter ce score de risque. C'est une tâche indélébile sur le profil douanier.
Fait que le gouvernement américain garde une mémoire très longue de ces erreurs-là.
Très longue. L'augmentation du score de risque entraîne des audits fréquents, des examens physiques constants et des retards chroniques.
Même pour des expéditions futures qui seraient parfaitement conformes.
Exactement. C'est la réputation permanente de l'entreprise qui est en jeu, pas juste une pénalité financière ponctuelle.
Rendu là, je me demande vraiment pourquoi quiconque prendrait un tel risque. Est-ce que c'est un manque de communication dans l'industrie ou juste du déni face au volume de travail que ça demande?
Probablement un mélange des deux. Le changement fait peur, puis la montagne de données à structurer est intimidante.
C'est clair. Et c'est là que la feuille de route d'urgence devient vitale. Parce que l'erreur fatale, ce serait de commencer à s'en préoccuper au printemps 2026.
Il sera beaucoup trop tard. La première action de la feuille de route, c'est d'auditer son catalogue interne.
Passer chaque article au peigne fin?
Oui. Identifier quels produits nécessitent des certificats CPC ou GCC.
Ensuite?
Ensuite, il faut contacter ses fournisseurs très en amont. Parce que rassembler les dates, les lieux de fabrication, les rapports de tests des labos, ça se fait pas en criant ciseaux.
J'imagine bien que le fournisseur asiatique ou européen n'a pas ça prêt dans un dossier PDF envoyé dans la minute.
Souvent non. Ça prend des mois de coordination. Ensuite, il faut créer son compte sur le registre de la CPSC pour utiliser la voie B.
Et se coordonner avec son courtier en douane. D'ailleurs, il y a un détail logistique crucial là-dessus dans le document. On a souvent le réflexe de penser que le courtier gère tout le problème de conformité.
C'est un mythe dangereux, ça?
Parce que dans le cas du e-filing, le courtier transmet les données, oui, mais il n'est pas celui qui certifie, n'est-ce pas?
C'est une distinction fondamentale. Le courtier, c'est juste un conduit technologique. Il pousse les données vers le système ACS, mais la responsabilité légale, elle repose uniquement sur l'importateur.
L'importateur ne peut pas juste déléguer le risque légal à son courtier en se fermant les yeux.
Exact. D'où l'importance d'utiliser la fenêtre de test volontaire actuelle. La CPSC permet aux entreprises de roder leur système informatique dès maintenant, sans risquer de pénalité.
C'est le temps de faire les erreurs, mettons.
Exactement. C'est le moment de tester la communication entre vos systèmes, ceux du courtier et la douane.
Bon, si on résume de façon élégante cette exploration, le message central du guide est sans appel. L'ère de la conformité invisible, du fameux papier caché dans un tiroir de bureau, c'est définitivement terminé.
Terminé, oui.
Le commerce transfrontalier du futur appartient vraiment à ceux qui maîtrisent leurs données. La préparation, que ce soit les audits, la communication avec les fournisseurs ou le registre CPSC, ça doit commencer aujourd'hui, pas la veille du 8 juillet 2026.
C'est une question de survie commerciale, ni plus ni moins. La frontière est maintenant un poste de contrôle numérique absolu.
Et ça me fait penser, si on prend un peu de recul, je dis ça comme ça, mais si on regarde au-delà de la logistique pure.
Oui.
Si les agences gouvernementales exigent désormais une transparence en temps réel de l'ADN sécuritaire de chaque produit, avant même qu'il traverse une frontière, croisant les usines et les labos en une fraction de seconde.
Ouais. On voit où la technologie s'en va.
Combien de temps ça va prendre avant que le consommateur lui-même exige d'avoir accès à cette même base de données?
Ah, c'est une excellente réflexion.
Imagine un parent qui se promène dans une rangée de magasins. Il scanne un code QR sur la boîte d'un jouet avec son téléphone, puis bang! Il accède instantanément aux données de test de la CPSC.
Et vérifie par lui-même si le produit est sécuritaire.
Exact. La conformité ultra stricte d'aujourd'hui, qui ressemble à un fardeau administratif géant, c'est peut-être juste en train de bâtir la norme de transparence commerciale de demain?
C'est très possible. Le consommateur est de plus en plus exigeant sur la provenance de ses achats.
Voilà. De quoi nourrir la réflexion pour quiconque nous écoute pendant qu'on met à jour nos propres bases de données en vue de 2026?